Maurice Leblanc, Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Deuxième épisode, La lampe juive. Chapitre 1. Herlock Sholmès et Wilson étaient assis à droite et à gauche de la grande cheminée, les pieds allongés vers un confortable feu de coke. La pipe de Sholmès, une courte bruyère à virole d'argent, s'éteignit. Il en vida les cendres, laboura de nouveau, l'alluma, ramena sur ses genoux les pans de sa robe de chambre et sortit de sa pipe de longues bouffées qu'il s'ingéniait à lancer au plafond en petits anneaux de fumée. Wilson le regardait. Il le regardait comme le chien couché en cercle sur le tapis du foyer regarde son maître, avec des yeux ronds, sans battement de paupières, des yeux qui n'ont d'autre espoir que de refléter le geste attendu. Le maître allait-il rompre le silence? Allait-il lui révéler le secret de sa songerie actuelle et l'admettre dans le royaume de la méditation, dont il semblait à Wilson que l'entrée lui était interdite? Sholmès se taisait. Wilson risqua. Ah, les temps sont calmes, pas une affaire à nous mettre sous la dent. Sholmès se tut de plus en plus violemment, mais ses anneaux de fumée étaient de mieux en mieux réussis, et tout autre que Wilson eût observé qu'il en tirait cette profonde satisfaction que nous donnent ces menus succès d'amour-propre aux heures où le cerveau est complètement vide de pensée. Wilson, découragé, se leva et s'approcha de la fenêtre. La triste rue s'étendait entre les façades mornes des maisons, sous un ciel noir d'où tombait une pluie méchante et rageuse. Un cab passa. Un autre cab. Wilson en inscrivit les numéros sur son calepin. Sait-on jamais? Tiens, s'écria-t-il, le facteur! L'homme entra, conduit par le domestique. « Deux lettres recommandées, monsieur, si vous voulez signer. » Sholmès signa le registre, accompagna l'homme jusqu'à la porte et revint tout en décachetant l'une des lettres. « Vous avez l'air tout heureux, » nota Wilson au bout d'un instant. « Cette lettre contient une proposition fort intéressante. » « Vous qui réclamiez une affaire, en voici une, lisez. » Wilson lut. « Monsieur, je viens vous demander le secours de votre expérience. J'ai été victime d'un vol important et les recherches effectuées jusqu'ici ne semblent pas devoir aboutir. Je vous envoie par ce courrier un certain nombre de journaux qui vous renseigneront sur cette affaire. » Et s'il vous agrée de la poursuivre, je mets mon hôtel à votre disposition et vous prie d'inscrire sur le chèque ci-inclus, signé de moi, la somme qu'il vous plaira de fixer pour vos frais de déplacement. Veuillez avoir l'obligeance de me télégraphier votre réponse et croyez, monsieur, à l'assurance de mes sentiments de haute considération, Baron Victor d'Imbleval, 18 rue Murillo. « Hé, hé !» fit Sholmès. « Voilà qui s'annonce à merveille. Un petit voyage à Paris, ma foi, pourquoi pas. Depuis mon fameux duel avec Arsène Lupin, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Je ne serais pas fâché de voir la capitale du monde dans des conditions un peu plus tranquilles. » Il déchira le chèque en 4 morceaux, et tandis que Wilson, dont le bras n'avait pas recouvré son ancienne souplesse, prononçait contre Paris des mots amers, il ouvrit la seconde enveloppe. Tout de suite, un mouvement d'irritation lui échappa, un pli barra son front pendant toute la lecture, et, froissant le papier, il en fit une boule qu'il jeta violemment sur le parquet. « Quoi ? Qu'y a-t-il ? » s'écria Wilson effaré. Il ramassa la boule, la déplia et lut avec une stupeur croissante. Mon cher maître, vous savez l'admiration que j'ai pour vous et l'intérêt que je prends à votre renommée. Eh bien, croyez-moi, ne vous occupez point de l'affaire à laquelle on vous sollicite de concourir. Votre intervention causerait beaucoup de mal, tous vos efforts n'amèneraient qu'un résultat pitoyable, et vous seriez obligé de faire publiquement l'aveu de votre échec. Profondément désireux de vous épargner une telle humiliation, je vous conjure, au nom de l'amitié qui nous unit, de rester bien tranquillement au coin de votre feu. Mes bons souvenirs à M. Wilson, et pour vous, mon cher maître, le respectueux hommage de votre dévoué, Arsène Lupin.
« Arsène Lupin !» répéta Wilson, confondu.
Sholmès se mit à frapper la table à coups de poing.
« Ah, mais il commence à m'embêter, cet animal-là. Il se moque de moi comme d'un gamin. L'aveu public de mon échec ? Ne l'ai-je pas contraint à rendre le diamant bleu ?»«
Il a peur, » insinua Wilson.
« Mais vous dites des bêtises. Arsène Lupin n'a jamais peur. Et la preuve, c'est qu'il me provoque. »
Mais comment a-t-il connaissance de la lettre que nous envoie le baron d'Imbleval?
Qu'est-ce que j'en sais? Vous me posez des questions stupides, mon cher.
Je pensais, je m'imaginais.
Quoi? Que je suis sorcier?
Non, mais je vous ai vu faire de tels prodiges.
Personne ne fait de prodiges. Moi, pas plus qu'un autre. Je réfléchis, je déduis, je conclus, mais je ne devine pas. Il n'y a que les imbéciles qui devinent.
Wilson prit l'attitude modeste d'un chien battu et s'efforça, afin de n'être pas un imbécile, de ne point deviner pourquoi Sholmès arpentait la chambre à grands pas irrités. Mais Sholmès ayant sonné son domestique et lui ayant commandé sa valise, Wilson se crut en droit, puisqu'il y avait là un fait matériel, de réfléchir, de déduire et de conclure que le maître partait en voyage. La même opération d'esprit lui permit d'affirmer, en homme qui ne craint pas l'erreur,
« Herlock, vous allez à Paris. »«
Possible. »
« Et vous y allez plus encore pour répondre à la provocation de Lupin que pour obliger le baron d'Imbleval. »«
Possible. »«
Herlock, je vous accompagne. » »«
Ah, ah, vieil ami !» s'écria Sholmès en interrompant sa promenade. « Vous n'avez donc pas peur que votre bras gauche ne partage le sort de votre bras droit ?»«
Que peut-il m'arriver ? Vous serez là. » »«
À la bonne heure, vous êtes un gaillard, et nous allons montrer à ce monsieur qu'il a peut-être tort de nous jeter le gant avec tant d'effronterie. Vite, Wilson, rendez-vous au premier train. »
Sans attendre les journaux dont le baron vous annonce l'envoi?
À quoi bon?
J'expédie un télégramme?
Inutile. Arsène Lupin connaîtrait mon arrivée. Je n'y tiens pas. Cette fois, Wilson, il faut jouer serré.
L'après-midi, les deux amis s'embarquaient à Douvres. La traversée fut excellente. Dans le rapide de Calais à Paris, Sholmès s'offrit 3 heures du sommeil le plus profond, tandis que Wilson faisait bonne garde à la porte du compartiment et méditait l'œil vague. Sholmès s'éveilla, heureux et dispo. La perspective d'un nouveau duel avec Arsène Lupin le ravissait, et il se frotta les mains de l'air satisfait d'un homme qui se prépare à goûter des joies abondantes.
« Enfin !» s'exclama Wilson, « on va se dégourdir !» Et il se frotta les mains du même air satisfait. En gare, Sholmès prit les plaides et suivi de Wilson qui portait les valises, chacun son fardeau, il donna les tickets et sortit allègrement. Beau temps, Wilson, du soleil, Paris est en fête pour nous recevoir.
Quelle foule!
Tant mieux, Wilson, nous ne risquons pas d'être remarqués. Personne ne nous reconnaîtra au milieu d'une telle multitude.
Monsieur Sholmès, n'est-ce pas?
Il s'arrêta, quelque peu interloqué. Qui diable pouvait ainsi le désigner par son nom?
Une femme se tenait à ses côtés, une jeune fille, dont la mise très simple soulignait la silhouette distinguée et dont la jolie figure avait une expression inquiète et douloureuse. Elle répéta « Vous êtes bien Monsieur Sholmès ?»
Comme il se taisait, autant par désarroi que par habitude de prudence, elle redit une troisième fois.
« C'est bien à M. Sholmès que j'ai l'honneur de parler ?»«
Que me voulez-vous » dit-il assez bourru, croyant à une rencontre douteuse.
Elle se planta devant lui. « Écoutez-moi, monsieur, c'est très grave. Je sais que vous allez rue Murillo. »«
Que dites-vous ?»
Je sais, rue Murillo, au numéro 18. Eh bien, il ne faut pas. Non, vous ne devez pas y aller. Je vous assure que vous le regretteriez. Si je vous dis cela, ne pensez pas que j'y ai quelque intérêt. C'est par raison, c'est en toute conscience.
Il essaya de l'écarter, elle insista.
Oh, je vous en prie, ne vous obstinez pas. Ah, si je savais comment vous convaincre! Regardez tout au fond de moi, tout au fond de mes yeux, ils sont sincères, ils disent la vérité. »
Elle offrait ses yeux éperdument, de ses beaux yeux graves et limpides où semble se réfléchir l'âme elle-même. Wilson hocha la tête. « Mademoiselle a l'air bien sincère. »«
Mais oui, implora-t-elle, il faut avoir confiance. »«
J'ai confiance, mademoiselle, » répliqua Wilson.
Oh, comme je suis heureuse! Et votre ami aussi, n'est-ce pas? Je le sens, j'en suis sûre. Quel bonheur, tout va s'arranger. Ah, la bonne idée que j'ai eue! Tenez, monsieur, il y a un train pour Calais dans 20 minutes. Eh bien, vous le prendrez. Vite, suivez-moi. Le chemin est de ce côté, vous n'avez que le temps. »
Elle cherchait à l'entraîner. Sholmès lui saisit le bras et d'une voix qu'il cherchait à rendre aussi douce que possible, « Excusez-moi, mademoiselle, de ne pouvoir accéder à votre désir, mais je n'abandonne jamais une tâche que j'ai entreprise. »«
Je vous en supplie, je vous en supplie. Ah, si vous pouviez comprendre !»
Il passa outre et s'éloigna rapidement. Wilson dit à la jeune fille,
« Ayez bon espoir, il ira jusqu'au bout de l'affaire. Il n'y a pas d'exemple qu'il ait encore échoué. »
Et il rattrapa Sholmès en courant. Herlock Sholmès, Arsène Lupin. Ces quatre mots, qui se détachaient en grosses lettres noires, les heurtèrent au premier pas. Ils s'approchèrent. Une théorie d'hommes sandwich déambulait les uns derrière les autres, portant à la main de lourdes cannes ferrées dont ils frappaient le trottoir en cadence et sur le dos d'énormes affiches où l'on pouvait lire « Le match Herlock Sholmès Arsène Lupin, arrivée du champion anglais ». Le grand détective s'attaque au mystère de la rue Murillo. Lire les détails dans l'Écho de France. Wilson hocha la tête.
Dites donc, Herlock, nous qui nous flattions de travailler incognito, je ne serais pas étonné que la garde républicaine nous attendît rue Murillo. Et qu'il y eut une réception officielle avec toast et champagne.
Quand vous vous mettez à avoir de l'esprit, Wilson, vous en valez deux, grinça Sholmès. Il s'avança vers l'un de ses hommes avec l'intention très nette de le prendre entre ses mains puissantes
et de le réduire en miettes, lui et son placard. La foule, cependant, s'attroupait autour des affiches. On plaisantait et l'on riait. Réprimant un furieux accès de rage, il dit à l'homme « Quand vous a-t-on embauché ?»«
Ce matin. »
« Vous avez commencé votre promenade ?»«
Il y a une heure. » »«
Mais les affiches étaient prêtes ?»«
Ah, dame, oui, lorsque nous sommes venus ce matin à l'agence, elles étaient là. »
Ainsi donc, Arsène Lupin avait prévu que lui, Sholmès, accepterait la bataille. Bien plus, la lettre écrite par Lupin prouvait qu'il désirait cette bataille et qu'il entrait dans ses plans de se mesurer une fois de plus avec son rival. Pourquoi ? Quel motif le poussait à recommencer la lutte ? Herlock eut une seconde d'hésitation. Il fallait vraiment que Lupin fût bien sûr de la victoire pour montrer tant d'insolence. Et n'était-ce pas tomber dans le piège que d'accourir ainsi au premier appel ?
Allons-y, Wilson. Cocher, 18 rue Murillo,
s'écria-t-il en un réveil d'énergie. Et les veines gonflées, les poings serrés comme s'il allait se livrer à un assaut de boxe, il sauta dans une voiture. La rue Murillo est bordée de luxueux hôtels particuliers dont la façade postérieure a vue sur le parc Monceau. Une des plus belles parmi ces demeures s'élève au numéro 18 et le baron d'Imbleval, qu'il habite avec sa femme et ses enfants, l'a meublée de la façon la plus somptueuse, en artiste et en millionnaire. Une cour d'honneur précède l'hôtel et des communs le bordent à droite et à gauche. En arrière, un jardin mêle les branches de ses arbres aux arbres du parc. Après avoir sonné, les deux Anglais franchirent la cour et furent reçus par un valet de pied qui les conduisit dans un petit salon situé sur l'autre façade. Ils s'assirent et inspectèrent d'un coup d'œil rapide les objets précieux qui encombraient ce boudoir.
« De jolies choses, » murmura Wilson, « du goût et de la fantaisie. On peut déduire que ceux qui ont eu le loisir de dénicher ces objets sont des gens d'un certain âge, 50 ans peut-être. »
Il n'acheva pas. La porte s'était ouverte et M. d'Imbleval entrait, suivi de sa femme. Contrairement aux déductions de Wilson, ils étaient tous deux jeunes, de tournure élégante et très vifs d'allure et de parole. Tous deux se confondirent en remerciements.
« Oh, c'est trop gentil à vous, un pareil dérangement. Nous sommes presque heureux de l'ennui qui vous arrive, puisque cela nous procure le plaisir. »
Quel charmeur que ces Français, pensa Wilson qu'une observation profonde n'effrayait pas.
Mais le temps est de l'argent, s'écria le baron, le vôtre surtout, monsieur Sholmès, aussi droit au but. Que pensez-vous de l'affaire? Espérez-vous l'amener à bien?
Pour l'amener à bien, il faudrait d'abord la connaître.
Vous ne la connaissez pas?
« Non, et je vous prie de m'expliquer les choses par le menu et sans rien omettre. De quoi s'agit-il ?»«
Il s'agit d'un vol. »«
Quel jour a-t-il eu lieu ?»«
Samedi dernier, répliqua le baron, dans la nuit de samedi à dimanche. »«
Il y a donc 6 jours. Maintenant, je vous écoute. » »«
Il faut dire d'abord, monsieur, que ma femme et moi, tout en nous conformant au genre de vie qu'exige notre situation, nous sortons peu. L'éducation de nos enfants, quelques réceptions et l'embellissement de notre intérieur, voilà notre existence. Et toutes nos soirées, ou à peu près, s'écoulent ici, dans cette pièce qui est le boudoir de ma femme et où nous avons réuni quelques objets d'art. Samedi dernier donc, vers 11 heures, j'éteignis l'électricité et ma femme et moi, nous nous retirâmes comme d'habitude dans notre chambre.
Qui se trouve ?
À côté, cette porte que vous voyez. Le lendemain, c'est-à-dire dimanche, je me levai de bonne heure, comme Suzanne, ma femme, dormait encore. Je passai dans ce boudoir aussi doucement que possible pour ne pas la réveiller. Quel fut mon étonnement en constatant que cette fenêtre était ouverte alors que la veille au soir nous l'avions laissée fermée. Un domestique. Non, personne n'entre ici le matin avant que nous n'ayons sonné. Du reste, je prends toujours la précaution de pousser le verrou de cette seconde porte, laquelle communique avec l'antichambre. Donc la fenêtre avait bien été ouverte du dehors. J'en eus d'ailleurs la preuve, le second carreau de la croisée de droite, près de l'espagnolette, avait été découpé. Et cette fenêtre ? Cette fenêtre, comme vous pouvez vous en rendre compte, donne sur une petite terrasse entourée d'un balcon de pierre. Nous sommes ici au premier étage et vous apercevez le jardin qui s'étend derrière l'hôtel et la grille qui le sépare du parc Monceau. Il y a donc certitude que l'homme est venu du parc Monceau, a franchi la grille à l'aide d'une échelle et est monté jusqu'à la terrasse. Il y a certitude, dites-vous ? On a trouvé de chaque côté de la grille, dans la terre molle des plates-bandes, des trous laissés par les deux montants de l'échelle. Et les deux mêmes trous existaient au bas de la terrasse. Enfin, le balcon porte deux légères éraflures, causées évidemment par le contact des montants. Le parc Monceau n'est-il pas fermé la nuit ? Fermé, non, mais en tout cas au numéro 14, il y a un hôtel en construction. Il était facile de pénétrer par là. Herlock Sholmès réfléchit quelques moments et reprit. Arrivons au vol, il aurait donc été commis dans la pièce où nous sommes. Oui, il y avait, entre cette Vierge du XIIe et ce tabernacle en argent ciselé, il y avait une petite lampe juive. Elle a disparu. Et c'est tout ? C'est tout. Oh ! Et qu'appelez-vous une lampe juive ? Ce sont de ces lampes en cuivre dont on se servait autrefois, composées d'une tige et d'un récipient où l'on mettait l'huile. De ce récipient s'échappaient deux ou plusieurs becs destinés aux mèches. Somme toute, des objets sans grande valeur. Sans grande valeur, en effet, mais celle-ci contenait une cachette où nous avions l'habitude de placer un magnifique bijou ancien, une chimère en or, sertie de rubis et d'émeraudes, qui était d'un très grand prix. Pourquoi cette habitude ? Ma foi, monsieur, je ne saurais trop dire. Peut-être le simple amusement d'utiliser une cachette de ce genre. Personne ne la connaissait ? Personne. Sauf évidemment le voleur de la chimère, objecta Sholmès, sans quoi il n'eût pas pris la peine de voler la lampe juive. Évidemment, mais comment pouvait-il la connaître, puisque c'est le hasard qui nous a révélé le mécanisme secret de cette lampe ? Le même hasard a pu le révéler à quelqu'un, un domestique, un familier de la maison. Mais continuons. La justice a-t-elle été prévenue ? Sans doute. Le juge d'instruction a fait son enquête. Les chroniqueurs, détectives, attachés à chacun des grands journaux, ont fait la leur. Mais ainsi que je vous l'ai écrit, il ne semble pas que le problème ait la moindre chance d'être jamais résolu. Sholmès se leva, se dirigea vers la fenêtre, examina la croisée, la terrasse, le balcon, se servit de sa loupe pour étudier les deux éraflures de la pierre et pria M. d'Imbleval de le conduire dans le jardin. Dehors, Sholmès s'assit tout simplement sur un fauteuil d'osier et regarda le toit de la maison d'un œil rêveur. Puis il marcha soudain vers deux petites caissettes en bois avec lesquelles on avait recouvert, afin d'en conserver l'empreinte exacte,
les trous laissés au pied de la terrasse par les montants de l'échelle. Il enleva les caissettes, se mit à genoux sur le sol et le dos rond, le nez à 20 cm du sol, il scruta, prit des mesures. Même opération le long de la grille, mais moins longue. C'était fini. Tous deux s'en retournèrent au boudoir où les attendait Madame d'Imbleval. Sholmès garda le silence quelques minutes encore, puis prononça ces paroles. « Dès le début de votre récit, monsieur le baron, j'ai été frappé par le côté vraiment trop simple de l'agression. Appliquer une échelle, couper un carreau, choisir un objet et s'en aller. Non, les choses ne se passent pas aussi facilement. Tout cela est trop clair, trop net. De sorte que... De sorte que le vol de la lampe juive a été commis sous la direction d'Arsène Lupin.
« Arsène Lupin ! » s'exclama le baron.
« Mais il a été commis en dehors de lui, sans que personne entrât dans cet hôtel. Un domestique, peut-être, qui sera descendu de sa mansarde sur la terrasse le long d'une gouttière que j'ai aperçue du jardin.
Mais sur quelle preuve ?
Arsène Lupin ne serait pas sorti du boudoir les mains vides.
Les mains vides et la lampe.
Prendre la lampe ne l'eût pas empêché de prendre cette tabatière enrichie de diamants ou ce collier de vieilles opales. Il lui suffisait de deux gestes en plus. S'il ne les a pas accomplis, c'est qu'il ne l'a pas vu.
Cependant, les traces révélées,
comédie, mise en scène pour détourner les soupçons, les éraflures de la balustrade, mensonge, elles ont été produites avec du papier de verre. Tenez, voici quelques brins de papier que j'ai recueillis.
Les marques laissées par les montants de l'échelle.
De la blague. Examinez les deux trous rectangulaires du bas de la terrasse et les deux trous situés près de la grille. Leur forme est semblable, mais parallèles ici et ne sont plus là-bas. Mesurez la distance qui sépare chaque trou de son voisin. L'écart change selon l'endroit. Au pied de la terrasse, il est de 23 cm. Le long de la grille, il est de 28 cm.
Et vous en concluez?
J'en conclus, puisque leur forme est identique, que les quatre trous ont été faits à l'aide d'un seul et unique bout de bois, convenablement taillé.
Le meilleur argument, alors, serait ce bout de bois lui-même.
Le voici, dit Sholmès. Je l'ai ramassé dans le jardin, sous la caisse d'un laurier.
Le baron s'inclina. Il y avait 40 minutes que l'Anglais avait franchi le seuil de cette porte et il ne restait plus rien du tout de tout ce qu'on en avait cru jusqu'ici sur le témoignage même des faits apparents. La réalité, une autre réalité, se dégageait, fondée sur quelque chose de beaucoup plus solide, le raisonnement d'un Herlock Sholmès.
L'accusation que vous lancez contre notre personnel est bien grave, monsieur, dit la baronne. Nos domestiques sont d'anciens serviteurs de la famille et aucun d'eux n'est capable de nous trahir.
Si l'un d'eux ne vous trahissait pas, comment expliquer que cette lettre ait pu me parvenir le jour même et par le même courrier que celle que vous m'avez écrite ? Et il tendit à la baronne la lettre que lui avait adressée Arsène Lupin.